Et je donne maintenant la parole à Elina Chapri, qui est à la fois ici, ici comme intervenante, et que vous avez vu à son activité précédente et à venir encore, parce que le colloque n'est pas fini, elle était aussi une des co-organisatrices du colloque. Donc, doctorante encore, puisque nous avons aujourd'hui, ce matin, d'abord j'hésite entre Brochette et Pléiade, enfin, une série de doctorants, doctorante en histoire, donc à Aix-en-Provence, et en votre tutelle, supervisée avec l'Université de Venise, c'est marqué ici, et je lis sur la notice qu'on m'a donnée que vous êtes surtout une historienne du culturel, c'est-à-dire que le rapport à la littérature dans votre thèse, comme dans les traductions que vous avez pu, à travers les traductions, les articles éventuellement que vous avez pu faire, ce qui vous intéresse, c'est moi le monument artistique que le document ou une histoire culturelle, la littérature qui documente l'histoire culturelle, et c'est à ce titre, donc, je suppose que vous parlez de la légitimité à l'épreuve de la Révolution, la fiction à l'épreuve de l'actualité, un regard aux écrivains de Syrie.
Donc, bonjour, merci à tous d'être là. Ne pas rester dans les vagues, la notion d'inattendu implique le fait de se positionner par rapport à un horizon d'attente spécifique. Ce qui n'est pas anodin dans le cas des productions littéraires liées aux révolutions arabes. Puisque l'année dernière, à l'ENS de Lyon, j'ai déjà eu la possibilité de parler de la réception de ces productions dans les champs européens, je vais tenter aujourd'hui de me positionner à l'intérieur du champ arabe, et en particulier syrien, parce que je crois que cela peut nous aider à faire ressortir des problématiques générales. Donc, encore une remarque sur ma posture. Comme Bruno Gelas le rappelait, c'est en tant que traductrice littéraire que j'ai pu avoir accès à la plupart du matériel dont je me sers aujourd'hui avec vous, mais c'est en tant que historienne des phénomènes culturels que je vais l'aborder. Donc, vous n'aurez pas avec moi une analyse littéraire au sens propre du mot, mais plutôt un regard qui est porté sur les productions culturelles pour tenter de saisir les producteurs et leur trajectoire. Donc, en se positionnant à l'intérieur du champ syrien, je pense qu'on peut envisager la notion d'inattendu comme la composante de rupture qui émerge avec la révolution. Cela est la composante avec sa propre temporalité que je vais tenter d'aborder aujourd'hui, non pas pour sous-estimer les temps longs dans lesquels les révolutions se préparent, mais parce que je pense que ça m'aide à faire ressortir des points intéressants. Donc, la première rupture que je pense pouvoir déceler dans les productions littéraires de Syrie, au temps des révolutions, est une renégociation même du statut de la littérature et du concept de fiction. Je vais vous donner maintenant quelques exemples. En 2011, l'écrivain syrien Khaled Khalif, que je vous ai brièvement présenté ici, a été invité à la Milanesiana, donc un festival culturel en Italie, à lire un texte littéraire inédit. Et c'est ce qu'il fait, tout en invitant en forme littéraire ses collègues, les écrivains de Syrie, à abandonner la littérature pour passer à quelque chose de différent. À son avis, en effet, la fiction littéraire est un mensonge innocent, Kezbari, qui est tout à fait légitime en temps de paix, mais qui est inopportun en temps de guerre de renseignement. En des temps pareils, il faut renoncer à toutes sortes de mensonges pour avoir recours à la seule vérité, pour aller la vérifier avec la rigueur des journalistes. En effet, il dit que si les journalistes sont empêchés de faire leur travail en Syrie, c'est aux écrivains qui revient la responsabilité d'aller en quête de vérité. Et c'est ce que fait Samari Azbek en 2012, la romancière qui quitte le roman pour nous livrer un journal de 4 premiers mois de la révolution en Syrie. Ce sont les mois qu'elle a passés dans son pays avant de se réfugier à Paris. Il faut souligner que dans ces journaux, à la différence d'un journal intime classique, il n'y a pas un regard qui est, disons, projeté vers le soi, vers l'intimité, mais un regard orienté vers l'extérieur. Samariasbe construit sa propre posture de témoin oculaire en disant qu'elle sort tous les matins pour aller voir ce qui se passe dans les quartiers de Damas et le relater ensuite. Et dans ce livre, qui est déjà traduit en français, elle dit, je vous cite, « On dit qu'écrire un roman nécessite de beaucoup d'imagination, et moi j'ai dit qu'il a d'abord besoin de réel, ensuite de réel, et enfin de réel. » Par ailleurs, le livre qu'elle est en train de rédiger en ce moment, « Balade de l'Adam », « Terre du néant », qui va paraître en 2014, s'inscrit dans ce même sillage. Et il est basé sur l'observation du réel qu'elle a faite pendant de récents voyages en Syrie. Toujours en 2012, depuis Paris, Salwa Naimi utilise des termes encore plus forts, plus crus, pour qualifier la fiction. Elle dit qu'elle y voit quelque chose d'indécent, Sheikh al-Beda, au moment où les Syriens sont massacrés jour après jour. Il faut savoir qu'elle a entamé un projet de roman en 2009 et elle n'arrive pas à l'achever, elle n'arrive pas à le mener à bien. Et quand elle y arrive et qu'elle nous livre Shibel Jadid al-Arabiya, vous l'avez déjà encore une fois traduit en français, en le lisant, on peut remarquer que ce roman est traversé par une sorte de césure. Le dernier chapitre, qui est très bref, est comme ajouté. Ça ne sert pas au déroulement de la trame et au contraire, il semble apporter, il semble dresser plutôt un bilan du parcours de l'auteur, plus que de l'héroïne du livre. On peut lire les lignes qui suivent. Je ne devais pas tromper l'attente et défaire la trame de mon histoire. L'histoire, avec un grand H, l'a fait. Une autre histoire a commencé. La révolution en Tunisie. Ben Ali a fui. La révolution en Égypte. Je suis les événements en continu, tout en observant les fils de mon histoire se dénouer. Les révolutions ont-elles éclos pour nous obliger à rectifier la trajectoire? Alors, on peut dire bien sûr que c'était pas le but, mais cette rectification des trajectoires est en effet ce qu'on peut observer dans les champs littéraires et culturels syriens. On peut passer à une figure de poétesse comme Aïcha Al-Arnaout, qui depuis 3 ans délaisse complètement l'écriture poétique pour se livrer à des activités de militante. Et on peut penser aussi à l'opposé, à Raoul Adounia, qui n'a jamais été ni écrivaine ni poétesse. Elle est avocate, elle est militante pour les droits humains, et elle commence à écrire avec la Révolution. Un journal pour témoigner de ce qui se passe en Syrie, et puis des poèmes. Son premier recueil, vous avez la couverture ici, sort au Caire en décembre de 2012. Il s'intitule « Qasaïd Ajla qabla sukut al-Khalifa », donc « Poème à la hâte avant la chute de la bombe ». Et ce recueil est conçu, je dirais, comme un double acte militant. D'un côté, en ce qui concerne les contenus, le titre est assez éloquent pour m'éviter de vous expliquer qu'il s'agit de la souffrance de la population civile en Syrie. Et puis, en ce qui concerne les buts, c'est-à-dire celui de récolter des fonds à travers 2 associations d'artistes syriens, la Free Association of Syrian Expats et Tajar Marji, donc les groupes Tamarji, qui vont ensuite redéployer ces fonds pour l'aide humanitaire aux populations de Syrie. Mais il faut dire autre chose. Il y a aussi, à partir de 2011, une différente façon d'investir la toile. On a vu, je faisais un peu allusion avec Raoul Adounia, à ces blogueurs et blogueuses qui se font écrivains. Il y a aussi, au contraire, des écrivains attitrés qui investissent le net, et qui ouvrent des blogs, qui ouvrent des sites. Dans un entretien récent, Nehal Silis dit l'avoir fait parce que pour lui, l'écriture créative est dans une situation d'impasse. Il dit, je cite, « L'imagination se retire face à un intérêt pour la réalité tangible. Les gens préfèrent lire les posts sur Facebook ou les dernières nouvelles plutôt que des histoires, même si elles parlent des révolutions. La meilleure chose qu'on puisse faire est d'être bref et éclaircir un peu ce qui se passe. » Et c'est ce que semble faire un écrivain qui, lui, n'est pas que attitré, il est carrément renommé, Zachary Gadamer, depuis son exil à Oxford et du haut de ses 80 ans. Pour la première fois de sa vie, en 2011, il ouvre son compte Facebook, qu'il utilise comme un blog. Il appelle Al-Mehmaz, les Perrons, et il s'attelle à y publier de façon régulière des nouvelles, souvent métaphoriques, parfois très souvent satiriques, ironiques, sur ce qui se passe en Syrie. Alors, dans un entretien avec Ziad Majid, qui lui pose la question, il lui demande comment il fait à concilier la qualité littéraire et l'engagement militant. Et Zachary Yatamel répond, j'ai écrit ce que j'ai souhaité exprimer, convaincu que celui qui croit qu'il n'est pas réaliste l'est par excellence. C'est encore, disons, encore une fois, on redessine la frontière entre réalité et fiction. Maintenant, pour passer de façon encore un peu plus poussée des trajectoires des écrivains au champ littéraire, je dirais que cette renégociation du statut de la fiction s'accompagne d'une renégociation du statut de son producteur. Et cela entraîne une remise en question des légitimités acquises dans les champs littéraires et parfois même du rôle de l'intellectuel en général. C'est un débat auquel on assiste depuis désormais 3 ans au Salon du Livre de Turin lors d'une rencontre avec le public italien qui portait en fait sur autre chose. Khaled Khalif rappelle que les révolutions arabes ont un caractère populaire et que les intellectuels n'en ont pas été le moteur. Ici même à Lyon, à l'ENS, l'année dernière, Samaria Azmek allait jusqu'à parler du silence et du retard des intellectuels vis-à-vis des manifestants dans la rue. Et les termes « silence »,« absente » revient souvent, par exemple dans un article de Dima Wanous qui a paru sur un quotidien libanais, à Safir, au printemps dernier, et où elle était censée se livrer à une analyse artistique des sculptures de Mustafa Ali, lui aussi un Syrien. À un moment donné, elle glisse d'une attention à ses sculptures à une remise en question du silence du sculpteur vis-à-vis de la révolution en Syrie. Et puis, seulement pour vous donner encore un autre exemple, Rosa Yassine Hassan publie dans la même période un article intitulé « Aina al-Muthaqafoun al-Suriyoun min al-Thawra » où sont les intellectuels syriens de la révolution, où elle s'attache à une tentative d'historiciser les fossés, sont ces mots, qui s'est creusé entre le peuple de Syrie et les intellectuels avec les décennies de dictature du clan al-Assad. Mais, si je puis dire, la polémique par excellence a éclaté bien plus tôt. Je vous rappelle que les débuts officiels des mouvements protestataires en Syrie ont fait remonter au 15 mars 2011 avec les manifestations de Daraa. Et même pas un mois après, le 14 avril 2011, la romancière Maha Hassan publie un article sur les quotidiens panarabes Al-Haya intitulé « Fursat Adonis ». L'occasion d'Adonis, où elle invite ses grands poètes syriens, enfin ses grands poètes tout court, à saisir enfin l'occasion pour condamner le régime de Bachar el-Assad et de cette façon dissiper les doutes quant à son ouverture envers celui-ci. Alors, il faut savoir que dans les mois qui suivent, Adonis ne prend pas la position souhaitée par Hassan. Au contraire, il dit ne pas pouvoir qualifier les faits tunisiens, égyptiens et syriens de révolution et ne pas pouvoir s'engager dans ce qu'il appelle Musa al-Siyasiya Tahruj min al-Jam, donc une contestation politique qui émane des mosquées. Et en juin 2011, il adresse même une lettre ouverte au dictateur Bachar el-Assad, où il affiche une disponibilité au dialogue, à un moment où la répression violente est déjà en cours depuis des mois, qui lui vaut une véritable remise en question de son prestige aussi littéraire, dans les champs syriens. Il faut savoir qu'il y a un tollé des réactions indignées dans les champs syriens et dans les champs arabes en général. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ici comme sous-titre « La guerre des écrivains ». Je l'emprunte bien sûr à Gisèle Sapiro, qui nous a livré un livre superbe où elle étudie la façon dont les frontières du champ littéraire français pendant la Seconde Guerre mondiale se redessinent, la façon dont les légitimités se recomposent. Et je pense qu'à l'avenir, on a, nous en tant qu'historiens de la culture, mais aussi les littéraires, on a intérêt à prendre l'exemple de cette lucidité, de cette rigueur qui est portée sur ce qui se passe à ce moment-là. En effet, cette remise en question ne se borne pas aux personnalités, il y a aussi une véritable remise en question des institutions officielles du champ littéraire. L'exemple, je pense, le plus frappant est la fondation, c'est même pas une refondation, c'est la fondation d'une nouvelle association des écrivains syriens, Rabt et Kotab Souriyin. Ça a lieu début 2012, et les noyaux, les groupes de fondateurs, je vous ai, j'espère que c'est lisible, je vous ai énuméré ici les noms. Il s'agit d'écrivains syriens qui vivent désormais pour la plupart à l'étranger, écrivains, poètes, critiques, et dont beaucoup sont des anciens détenus politiques, et qui commencent à discuter, qui veulent afficher une rupture avec l'association des écrivains officiels qui, elle, est rangée dans les camps du régime. Et la rupture, je pense, la plus marquante est dans les noms même de l'association, parce qu'il faut savoir que Rabt et Kotab Souriyin n'était plus le nom de l'association des écrivains en Syrie depuis 1969, depuis les réformes que, après les coups d'État de 1963, qui a porté au pouvoir le parti Elbaf, a, disons, conduit à tout un remaniement des institutions culturelles. Donc, à ce moment-là, on revient à ces noms qui étaient celui de l'association des écrivains syriens après l'indépendance de la France et avant les coups d'État du Bas. Et cette association reçoit, maintenant, si vous allez sur les sites, vous pouvez très facilement voir les membres. Il y a à peu près 300 membres, avec, on m'a dit, une trentaine de membres qui vont de demandes, disons, d'adhésion. Donc, ça évolue tout le temps. Il y a les écrivains de Syrie les plus importants, par Nazia Abou Afash et Adonis. Et il y a aussi beaucoup d'écrivains égyptiens et jordaniens, enfin arabes, qui adhèrent comme acte de solidarité envers la cause syrienne. Maintenant, pour aller vers les conclusions, je me suis posé en effet la question, disons, de savoir qu'est-ce que tout ça, je veux dire, la renégociation du concept de fiction peut avoir en commun avec cette remise en question de légitimité dans les champs littéraires. Et je pense pouvoir dire qu'il s'agit de l'émergence de la figure du témoin. En effet, les rôles qui étaient joués en temps ordinaire dans les champs littéraires par l'écrivain, les producteurs de fiction, et dans les champs publics par l'intellectuel, les producteurs d'un discours civique, disons moral ou politique, semblent maintenant céder la place à une volonté de témoigner. On peut témoigner, bien entendu, de différentes façons. On peut témoigner de quelque chose de sérieux, d'une réalité sur le terrain, comme les font Samari Yazbek ou Khaled Khalif, qui sortent de chez eux pour aller observer ce qui se passe et raconter. On peut témoigner aussi d'une prise de position, comme les font Sadiq Jalal Azm, Farish Bekhtar et les autres qui ont fondé la nouvelle association des écrivains de Syrie, qui veulent dire, qui veulent témoigner du fait qu'ils sont là, et pas de la même façon que l'association du régime. Et donc c'est pour ça que je dis que ce témoignage n'est pas qu'un genre littéraire. Ça marque l'émergence, je crois, à la fois d'une pratique de l'écriture et d'une posture intellectuelle qui ne se borne ni à la Syrie, ni aux écrivains. En effet, disons que la trajectoire de l'historienne tunisienne Qmar Bendana, qu'on a la chance d'avoir ici et que j'avais déjà eu la chance d'écouter l'année dernière à Lyon, peut nous aider à comprendre cela. Dans son livre, chronique d'une transition, elle nous explique que face à la révolution dans son pays, eh bien, elle a ressenti le besoin de mettre de côté l'écriture de l'histoire pour un moment, pour se poser, pour assumer une posture de témoin. Vous dites avoir eu la réaction progressive d'un témoin impressionné, surpris par les événements, et d'avoir éprouvé les besoins de vous retirer face à une actualité qui devenait soudain intense. Je pense que cela pourrait, nous mener à réfléchir ou à conforter l'hypothèse que les témoignages se donnent maintenant comme réponse active et créative à cet inattendu des révolutions. Sur ça, j'ai vraiment conclu. Je tiens toutefois à remercier toutes les personnes qui, en les sachant, sans les savoir, m'ont aidé à concevoir cette communication, donc Faraj Bertal, Marc Mendana, Yasmina Gerassati, Giacomo Longhi, Caterina Pinto, Lorenzo Tombetta, Samaria Svechesena. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à eux de m'avoir écouté.